BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommerer.
Et bienvenue à tous, on va vivre ensemble tous les moments clés de cette séance, jusqu'à la clôture et même un peu au-delà. On vous accompagne jusqu'à 18h, beaucoup de publications et encore demain, il y en aura encore beaucoup plus en Europe. Aujourd'hui, Kering sanctionné, lourd repli pour Kering, qui signe la plus forte baisse du CAC. On va en parler, lourd repli pour Eurofins, scientifique aussi, Eurofins, qui signe la deuxième plus forte baisse. Et Orange aussi a publié, Orange signe la troisième plus forte baisse. Cet après-midi, en revanche, ST Microelectronics est porté par les nouvelles plus encourageantes cette fois dans l'univers des semi-conducteurs et notamment après une publication américaine, celle de Texas Instruments. STM en profite et signe la plus forte hausse du CAC. On va aussi en parler. Mais puisqu'on évoquait Texas Instruments et les publications américaines, direction Wall Street, c'est l'ouverture sur place. 9h32, effectivement, à New York. Comment Wall Street arbitre-t-il les très nombreuses publications d'entreprises? Et on va parler de Tesla aussi, bien sûr, dans un instant. USA Today, John Plassard avec nous. Bonjour, John, depuis les bureaux de
Mirabeau. Bonjour,
Guillaume. Ravi de vous retrouver. Étienne Braque aussi, de retour depuis la Tour Euronext. Bonjour, Étienne. Pourquoi rebonjour? Parce qu'on s'est parlé un peu tout à l'heure.
Bonjour à tous.
On a préparé l'émission et on vous retrouve là en direct à l'antenne. Bonjour, Étienne. Ravi aussi de vous retrouver. Comment Wall Street se réveille-t-il?
En ordre dispersé, avec un Dow Jones qui recule très légèrement de 0,1% à 38 454 points, quand le Nasdaq de son côté est bien parti pour enchaîner une troisième séance dans le vert, plus 0,5%. Troisième séance dans le vert également pour l'instant pour le S&P 500 avec un gain de 0,1%. Les valeurs technologiques, comme hier, qui continuent de surperformer. John nous expliquera dans un instant le cas de Texas, qui est en train de driver tout le secteur technologique aux États-Unis, avec notamment Nvidia qui a retrouvé les 2000 milliards de valorisation boursière, plus 1,3%. Vous avez Microsoft qui gagne 0,4%, et puis Meta de son côté gagne un peu plus de 2%. La valeur star, bien sûr, aujourd'hui, c'est Visa qui gagne 2,5%, toujours sur des records historiques. La dépense de consommateurs qui est toujours présente, des dépenses des consommateurs qui est également présente dans le secteur du voyage, avec Hilton qui gagne également plus de 6%, le groupe qui est confiant pour cette année, qui s'attend à une forte reprise des voyages, comme l'année dernière. Ça devrait se poursuivre, alors que le groupe était un petit peu plus prudent en début d'année. Le marché achète la nouvelle. Et puis enfin, un dernier mot de AT&T dans le secteur des télécoms, qui l'a contre Contrairement à Orange, continue de gagner des abonnés et optimiste pour cette année. Le marché achète la nouvelle avec un AT&T qui gagne un peu plus de 2%. Et donc Wall Street qui est en ordre dispersé. Le Nasdaq qui surperforme quand le S&P et le Dow Jones sont quasiment stables. L'euro-dollar peine à s'accrocher au-delà des 1,07, 1,0695.
Elles sont nombreuses ces publications. On évoquera aussi Boeing dans un instant. D'abord quand même, John, un mot de l'indicateur, le principal du jour aux États-Unis, l'indicateur macroéconomique, les commandes de biens durables. Est-ce que l'incroyable dynamique américaine se confirme?
Ah oui, cette incroyable dynamique avait été un peu douchée hier avec des PMI qui étaient en dessous des attentes. Et là, évidemment, tout le monde attendait les commandes de biens durables. Eh bien, tenez-vous bien, elles ont augmenté de 2,6% en mars après une croissance de 0,7% en février. Puis on avait un consensus qui était légèrement plus bas, 2,5%. C'est la plus forte progression mensuelle depuis novembre 2023. Alors, ce qu'il faut regarder, c'est un peu dans les détails sur ces biens manufacturés, puisqu'on voit que cette progression est principalement due par les demandes d'automobiles et les avions de ligne, malgré les déboires de Boeing. Et si on exclut les transports, les commandes ont légèrement augmenté, 0,2%. Mais globalement, c'est un très bon chiffre qui traduit toujours une belle vigueur économique américaine.
Effectivement, même si, Étienne, sur cette croissance américaine, on a certains discours un peu plus prudents désormais.
Ah oui, à commencer notamment par Jamie Dimon. Alors, John Plassard, vous allez me dire, c'est pas la première fois que Jamie Dimon est pessimiste, encore lors de la publication des résultats il y a 15 jours, il était très prudent.
Oui, tout à fait. Et puis, il faut rappeler quoi, que Jamie Dimon, qui est le CEO de JP Morgan, a toujours des discours assez forts. Il prévisait l'année passée que les taux d'intérêt américains seraient à 7%. Cette année, il dit qu'il peut aller jusqu'à 8%. Alors, il faut faire attention un petit peu à ce qu'il dit. Mais bon, c'est la plus grande banque du monde, donc il faut l'écouter. Il a dit que l'économie américaine était quand même incroyable et qu'elle se tenait d'une manière assez fortement malgré les taux d'intérêt qui ont été remontés abruptement. Et il dit qu'il faut se méfier. Il faut se méfier parce qu'il pourrait y avoir des pièges. Et l'un de ces pièges, tenez-vous bien, Étienne, ce serait potentiellement qu'on puisse voir tout d'un coup le prix du baril aller à $120 à cause des tensions géopolitiques que l'on a. Et bien évidemment, ça aurait un impact sur l'inflation et un impact sur les indices et l'économie. Donc faire très attention ici, attention à ce que Jamie Dimon appelle les pièges.
Effectivement, Wall Street ouvre en légère hausse, il y a une valeur qui gagne 10%. Tesla, après sa publication, plus 10 Tesla. Et le titre semble réenchanter les investisseurs. On va en parler dans une poignée de secondes, juste après avoir évoqué aussi la présidentielle américaine, John. On est à 197 jours du scrutin. Et toujours, même si Donald Trump, bien sûr, est très haut dans les sondages, toujours des incertitudes quand même quant à son destin judiciaire.
Oui, tout à fait. Et vous savez que c'est une histoire dont on parle énormément aux États-Unis parce qu'il y a une infime chance pour que Donald Trump aille en prison avant les élections présidentielles. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous savez que les présidents aux États-Unis sont tenus d'être protégés 24 heures sur 24 par les services secrets américains. Donc, comment protéger un président, un ancien président en prison? Et donc, c'est la question qu'on se pose. On se demande s'il y aura des cellules spéciales pour Donald Trump et, bien évidemment, pour les services secrets qui devraient le surveiller. Ça paraît assez fou, mais c'est une question qui est très importante ici aux États-Unis parce qu'on craint, bien évidemment, qu'un Donald Trump en prison ait des problèmes à l'intérieur de la prison et qu'il y ait des problèmes à l'extérieur de la prison. Donc, les services secrets sont sur les dents sur une potentielle passage à la case départ ou à la case prison, comme on l'appelle au Monopoly, de Donald Trump.
Il y a deux grands enjeux sécuritaires. Il y a les JO à Paris, puis si Donald Trump est en prison, comment on gère ça en termes de sécurité dans la prison? Bon, on n'en est pas là. On va suivre en tout cas la suite de cette campagne électorale, bien sûr. Mais ça fait partie, ça nourrit le débat là-bas aux États-Unis, au cœur effectivement de ce scrutin qui approche dans quelques mois désormais. Étienne, ce qui nous occupe en attendant, ce sont donc les nombreuses publications d'entreprises. Évidemment, le groupe était attendu au tournant hier soir. Tesla a annoncé ses résultats. Comment Wall Street réagit-il?
Eh bien, plutôt bien, puisque si le Nasdaq gagne 0,8% et surperforme les autres indices américains, c'est grâce notamment à Tesla qui gagne plus de 10%. Alors, John Plassard, les résultats ne sont pas spectaculaires, mais comme toujours, Elon Musk arrive à maquiller certaines mauvaises nouvelles.
Vous avez dit exactement, maquiller. Vous savez que les investisseurs s'attendaient au pire. Après, on a quand même eu une semaine, plusieurs mois, mais une semaine tumultueuse avec des licenciements massifs, avec des départs de cas, des baisses de prix, des reports d'une rencontre très attendue avec le Premier ministre indien. Eh bien, tenez-vous bien, ils ont été, en tout cas, apaisés aujourd'hui parce que apparemment, le ralentissement de la croissance devrait s'arrêter avec la sortie d'un véhicule à bas coût qui coûterait, alors on n'a pas beaucoup de détails, hein, mais environ $25,000, donc c'est environ 20 à 22 000 euros. Évidemment, Elon Musk a refusé de fournir des détails sur ces modèles. Il a consacré la majeure partie de la conférence de presse hier à parler de l'intelligence artificielle, de robots humanoïdes, de l'exploitation de véhicules autonomes, tout ça basé sur des logiciels, Étienne, tenez-vous bien, qui ne sont pas encore totalement développé. Donc un gros nuage de fumée qui permet au titre de rebondir, notamment sur des rachats de shorts, bien évidemment.
10% la hausse de Tesla, effectivement, aujourd'hui. Une autre valeur qui peut-être, elle, convainc plus structurellement, Texas Instruments dans les semi-conducteurs. C'est vrai que tout le secteur est porté. On voit Paris STM en tête du CAC 40. Texas Instruments, qui a donc publié, gagne 5% en ce moment, John, à Wall Street.
Oui, tout à fait. Anticipation. Alors, les chiffres sont plus ou moins en ligne, mais on a des anticipations de chiffre d'affaires et de bénéfices qui sont en hausse. Donc, c'est les signes d'une reprise de la demande pour les puces analogiques qui sont utilisées, il faut le rappeler, dans l'électronique personnelle, dans l'automobile et puis aussi l'industrie. Donc, on voit que pour l'instant, on avait eu certains commentaires d'analystes ces dernières semaines en disant qu'on arrivait sur le bas du cycle des semi-conducteurs. Et apparemment, si on écoute le message de Texas Instruments, eh bien, ce fameux cycle serait en train de reprendre. C'est une très bonne nouvelle pour les entreprises, notamment européennes. Et vous l'avez dit avant, Guillaume, STM et notamment Infineon en Europe qui bénéficient de ce message extrêmement positif.
Ah oui, et ça fait du bien après la semaine dernière qui était très très compliquée pour ce secteur des semi-conducteurs. Effectivement, ils retrouvent du poil de la bête. On va beaucoup en parler tout au long de l'après-midi, bien sûr, dans BFM Bourse. Et puis, il y a un titre, un feuilleton qu'on continue de vous faire vivre. Effectivement, Boeing, que d'incidents sur les appareils de Boeing depuis le début de l'année. Eh bien, Boeing, Étienne, a publié ses résultats.
Et c'est apprécié puisque vous avez un titre qui, avec Visa, est la plus forte hausse du Dow Jones, plus 2% pour ce titre Boeing à $172. Alors bon, malgré tout, le titre perd toujours 30% depuis le début de l'année, John.
Oui, tout à fait. Puis on a vu une baisse du chiffre d'affaires de 8%. On est à 16,57 milliards. C'est la première baisse du chiffre d'affaires depuis 7 trimestres. Je vous rappelle quand même que Boeing a été contraint de ralentir sa production. Mais ce qui a été pris et ce qui est pris aujourd'hui du côté positif, c'est ce qu'on appelle la consommation de trésorerie, qui était de 3,9 milliards contre 786 millions il y a une année. Et en mars, Boeing avait annoncé que cette consommation de trésorerie serait entre 4 et 4,5 milliards, 4,5 milliards, et on est à 3,9. Il faut rappeler aussi ici qu'on a le directeur général qui va partir à la fin de l'année et qu'on a toujours une demande qui reste forte. Mais, parce qu'il y a toujours des mais avec Boeing, eh bien, nouvel épisode aujourd'hui en Afrique du Sud. On a un Boeing qui a perdu une roue au décollage avant d'entamer un atterrissage de force en Afrique du Sud. Et donc, évidemment, la confiance des voyageurs et la confiance des acheteurs continue d'être marquée par le fer rouge.
Oui, et c'est terrible pour Boeing parce que sur les réseaux aux États-Unis, il y a cette blague qui court et qui circule. Je ne sais pas si elle est parvenue jusqu'à vous, John ou Étienne. Vous savez ce que ça fait, le bruit d'une roue qui se détache d'un avion? Ça fait boing, boing quand ça rebondit sur la piste. Boing, boing.
Bref. Je n'avais pas entendu.
Ben voilà. Merci beaucoup John de nous avoir accompagné. John Plassard du USA Today chaque après-midi. Effectivement, Boeing qui quand même progresse après sa publication. Et Étienne qui nous alerte tout au long de l'après-midi. À tout de suite Étienne, n'hésitez pas à nous rappeler quand vous le souhaitez depuis la tour Euronext. Wall Street mitigé, le CAC 40 en petite hausse, plus 0,2%, 8124 points à la Bourse de Paris. Si vous avez des questions sur vos portefeuilles, n'hésitez pas à nous les envoyer bien sûr en scannant, en flashant le QR code. Vous connaissez désormais le process et dans quelques minutes, 15h50, Julie Cohen-Herton et son expert vous répondront. Culture Bourse chaque jour aux alentours de 15h50. Mais d'abord, à 15h43, c'est la Bourse Cash. David Kruk nous rejoint, la financière de l'échiquier. Bonjour David.
Bonjour Guillaume.
Vous venez dire leurs quatre vérités au marché. Vous êtes sûr?
Je suis sûr.
Voici votre message aux investisseurs aujourd'hui, David. Pour vous, l'Europe fait son comeback. Alors ça, vous l'assumez?
Je l'assume totalement.
L'Europe fait son comeback, et son comeback boursier, mesdames, messieurs. C'est le propos que vient vous délivrer. David Kruk, vous êtes sincère quand vous dites que l'Europe fait son comeback?
Alors, je suis pas toujours sincère, mais là, je suis sincère. Mais c'est vrai, Guillaume, je suis pas venu pour parler des cotes et valorisations, parce que ça, je sais qu'on en parle, c'est un serpent de mer, la décote des marchés européens contre les marchés américains. Mais quatre points très courts, synthétiques. C'est le troisième que je préfère, je vous le dis tout de suite. Mais c'est vrai qu'on a un scénario en Europe qui est assez visible, avec une inflation qui commence à décroître et une croissance plus faible qu'aux États-Unis, mais déjà connu. Donc, il y a un découplement en termes de politique monétaire qui est acté. Mmh. Aux US, on n'est pas totalement sûr du moment où la Fed va baisser ses taux. En Europe, on en est à peu près sûr, ça sera juin. Comme d'ailleurs la BOE, on pourrait parler aussi du marché anglais. Et c'est toujours mieux d'être derrière une politique monétaire accommodante, derrière toujours une banque centrale accommodante. C'est toujours un moment où on gagne et où les marchés s'envolent quand les politiques monétaires sont accommodantes. Et on l'a vu à travers le Japon, qui est revenu sur ses niveaux de 1990 grâce à une politique ultra accommodante, peut-être trop accommodante d'ailleurs. Alors certes, vous allez me dire sur le change, vous allez perdre un peu, mais généralement, les marchés montent. Donc, une visibilité, un scénario très clair en Europe et une politique accommodante, ça j'achète. Le deuxième point, c'est un rendement pour nos investisseurs qui est quand même de 4,8% sur le Stoxx 600 et sur le S&P, il est de 3,5%. On a un point de plus de dividendes et de buyback et ça, je crois qu'on n'en est pas toujours conscient. Et pour les investisseurs, c'est quand même un rendement qui est quand même extrêmement attrayant. Donc, plus attrayant en Europe qu'aux US.
Oui, enfin, on a ce rendement plus attrayant en Europe parce que les actifs en Europe sont plus décotés qu'aux États-Unis aussi. Enfin,
aussi, oui, d'accord. Mais aussi les...
Mais oui, David.
Bah oui, mais c'est quand même une bonne chose aujourd'hui de pouvoir acheter un marché avec un rendement aussi important. Le troisième point, c'est celui qui m'intéresse le plus. C'est la contraction de la taille du marché en Europe. Est-ce que vous savez, Guillaume, combien le marché s'est contracté en 12 mois? 170 milliards d'euros. C'est-à-dire, c'est une équation extrêmement facile. Il y a beaucoup de share buyback,
Des rachats d'actions.
Des rachats d'actions, pardon. Il y a du M&A, donc des fusions-acquisitions. Et par contre, il y a une anémie un peu de sur le marché primaire. C'est-à-dire, il n'y a pas beaucoup ce qu'on appelle des IPO, des mises sur le marché. Il y a peu de sociétés qui revendent en secondaire, ce qu'on appelle nous des ABB. Chaque fois, je suis obligé de transférer en français. Donc, l'équation, elle, c'est facile. 170 milliards de moins d'actions en circulation sur les marchés européens et toujours un enthousiasme et une résilience des acheteurs importante.
Ce que vous venez de nous dire, c'est qu'on a aussi une forme de contrition du marché actions, de la taille du marché actions, de la capitalisation boursière et donc des actions disponibles, alors que la demande est toujours là, peut-être pas un peu moins qu'elle ne fut un temps, mais enfin elle est toujours là. L'offre se raréfie davantage que la demande ne diminue, c'est ça l'idée, ce qui contribue peut-être aussi à faire monter les marchés actions actions en Europe.
D'accord. C'est exactement ça. Et en janvier-février, je ne l'avais pas vraiment réalisé, donc j'étais assez content du point d'entrée d'octobre, et c'est vrai que finalement, je voyais plutôt une consolidation, mais dans une équation aussi simple que ça, c'est très très difficile pour les marchés de revenir les plus bas.
Donc trois points forts pour l'Europe.
Et le quatrième,
il y a un dernier.
C'est vrai. C'est la Chine quand même qui est important, puisque l'activité chinoise quand même s'améliore. Il y avait une très belle note du BS cette semaine qui upgradait le marché chinois. Tout le monde a une croissance de 5%. On n'a jamais été aussi exposé à la Chine que l'Europe, notamment l'Allemagne, bien sûr. Et donc ça, c'est le quatrième point, puisque ça va mieux en Chine. Donc si ça va mieux en Chine, ça ira mieux en Europe. Et ça, c'est un point important. Et c'est mon quatrième.
Ça arrête de se dégrader en Chine. Est-ce qu'on peut le dire plutôt comme ça? On n'a pas non plus un énorme redémarrage chinois. Voilà. Alors, les effets de base deviennent plus favorables. Bon,
je suis d'accord avec vous.
C'est tout, David.
Mais on n'achète jamais ce qui se passe actuellement. On achète l'anticipation de ce qu'il va y avoir. Donc aujourd'hui, c'est vrai que ce n'est pas encore extraordinaire. Mais la croissance va s'améliorer et on voit quelques signes tangibles d'amélioration.
Quatre points forts pour l'Europe, donc, et vous dites même l'Europe boursière fait son comeback et va amplifier peut-être ce comeback, savoir donc son exposition à la Chine qui était un point faible peut redevenir un point fort.
Absolument.
Voilà, le goût des marchés pour les actifs décotés, ce rendement des actions européennes plus fort que le rendement des actions américaines, la BCE qui va baisser ses taux sans doute avant la Fed, point fort, et puis de moins en moins d'offres d'actions et donc mécaniquement,
absolument.
Ça fait monter le marché.
On a une diminution qui est au rythme le plus élevé depuis 2 ans.
Étienne nous appelle justement les marchés européens, on en parle, on va les vivre cette séance de l'intérieur, 15h48, Étienne depuis la tour Euronext, on est en hausse aujourd'hui en Europe, en hausse à peu près comparable à celle du S&P 500. Le CAC gagne un peu moins que le S&P, mais enfin on est à peu près à égalité.
Oui, en effet, même depuis 14h30, les Américains ont visiblement un petit peu vendu l'Europe, puisque le CAC 40 n'est plus sur les plus hauts niveaux de la séance. Néanmoins, elle gagne 0,2%. Alors, le CAC est à 1,5% de son record, mais en Europe, il y a un indice qui a touché un nouveau plus haut historique aujourd'hui, c'est le FTSE à Londres, grâce notamment aux valeurs pétrolières qui ont bien surperformé ces derniers jours. Le pétrole qui recule très légèrement, moins 0,3% à $87. À noter que le marché encaisse une nouvelle fois très bien la remontée des taux, avec un 10 ans américain qui reprend 4 points de base à 4,65, un 10 ans français qui est sur des plus hauts de 5 mois à 3,07, et malgré cela, eh bien, vous avez les indices qui continuent d'avancer. Visiblement, les inquiétudes de la semaine dernière et les envies de consolidation ont vite été balayées par les résultats d'entreprises qui, pour l'instant, sont plutôt bien intégrés.
Effectivement, alors on parlera de Kering quand même à partir de 16h, parce que là, c'est quand même la douche froide, même si le groupe avait averti, la publication déçoit. Ce titre Kering recule en ce moment de plus de 5%. Thibaut François sera avec nous à 16h pour en parler. En revanche, les semi-conducteurs, c'est un carton. Texas Instruments a publié ses résultats. Tout le secteur rebondit après la semaine dernière qui était compliquée. David, il faut revenir sur le segment des semi-conducteurs.
Oui, il faut revenir, c'est un signal fort, Guillaume. Texas Instruments, c'est quand même la société que tout le monde regarde, que tout le monde écoute. C'est une des plus grosses sociétés dans l'industrie des semi-conducteurs, qui est liée à l'industrie des semi-conducteurs industriels et automobiles. Donc pas tout ce qui est digital, wireless, PCI, il faut faire la différence. C'est tout ce qui est analogue. Et là, il nous donne quand même un message qui est extrêmement intéressant, c'est que la correction des inventaires est finie. Dans les semi-conducteurs, vous achetez, c'est cyclique au moment où la correction se termine des inventaires. Donc c'est un message très fort. On voit Infineon qui rebondit, qui avait été un peu massacré, c'est un mot un peu fort, mais qui avait en tout cas consolidé assez nettement ces derniers temps. Là, on a un rebond fort, on a un rebond d'STM, de X-Fab, de Melexis qui a sorti ses résultats. Donc on voit une industrie qui repart fort, plus d'autres résultats qui sont aussi extrêmement intéressants, comme ASMI, bien sûr, comme Nordic Semi, qui était pas toujours, ça n'a pas toujours été le cas. Donc un indice des semi-conducteurs qui avait beaucoup baissé depuis une dizaine de jours et qui devrait remonter, mais qui devrait continuer de remonter, puisqu'effectivement, on a un message aujourd'hui aujourd'hui extrêmement fort de Texas sur cette correction d'inventaire qui est finie.
Texas gagne 5% à Wall Street, STM en profite et gagne 6%, plus forte hausse du CAC 40. Dernière question. Il semble que les Américains soient en train de réfléchir, David, de réfléchir à supprimer les horaires d'ouverture et de fermeture du NYSE, du New York Stock Exchange, donc Wall Street, qui serait comme ça en cotation permanente et continue, le week-end, la nuit, enfin voilà, il n'y aurait plus d'horaire en quelque sorte. C'est juste une piste de réflexion de la part du NYSE, mais voilà, ils essaient d'explorer cette idée. En gros, on pourrait du coup faire du trading sur actions tout le temps, plus d'horaire d'ouverture ni de fermeture, un peu comme on le fait déjà sur les cryptos par exemple, qui n'ont pas non plus de jours fériés ni de samedi, dimanche. Cette hypothèse, ce scénario, il vous plairait? Vous suivez d'ailleurs tout ça, vous êtes acteur du trading pour la financière de l'échiquier, ça vous plairait de pouvoir le faire tout le temps, en continu, sans horaire d'ouverture et de fermeture?
Pas du tout. Et j'y crois pas une seconde. Peut-être que je serais payé plus cher, remarquez, c'est peut-être une bonne chose. Mais déjà, nous, on n'utilise pas toute la plage horaire qui est due généralement après 18h30, 19h. Mais les investisseurs étrangers, c'est 18% du marché américain. Je suis pas sûr qu'ils changent tout ça pour 18% seulement du marché. Et puis, on est juste en train de changer...
Mais attendez, justement, si on peut trader, même quand aux États-Unis c'est la nuit, ben là, la part des investisseurs étrangers va augmenter, du coup.
Je pense pas moi, à l'inverse, je pense qu'ils feraient pas ça pour 18% seulement. Et la dernière chose, c'est qu'en ce moment, on est en train de changer tout le process de middle office où on n'est plus à J+2. Donc, c'est les règlements livraison des titres. Parce que c'est bien de traiter, Guillaume, mais il faut pouvoir aussi livrer derrière. Mm-hmm. On passe de 2 jours à 1 jour. Si on devait passer à J0, ça serait très complexe. Donc, non, la conclusion, c'est que j'y crois pas une seconde. En tout cas, sur le court terme.
Oui. Puis l'avantage des horaires d'ouverture et de fermeture, comme ça, c'est que ça permet entre-temps de laisser le temps de réfléchir justement aussi. Ouais, c'est un peu de maturité au marché, c'est pas mal. Bon, David Kruk, merci beaucoup David. La financière de l'échiquier est régulièrement à nos côtés. Bon retour, le CAC 40 est en hausse. Plus 0,2% sur nos réseaux sociaux. La question du jour, parmi les nombreuses publications aujourd'hui, laquelle suivez-vous particulièrement? Est-ce que c'est Tesla? Plus 10% hein, Tesla Wall Street aujourd'hui. Est-ce que c'est Kering? Est-ce que c'est plutôt Air Liquide que vous suivez? Ou Boeing? Continuez de voter, bien sûr, et on rebondira sur vos réponses et vos arguments dans un peu moins d'une heure avec la famille BFM Bourse.
BFM Bourse, Culture Bourse.
Oui, parce qu'investir en bourse, ça se cultive. Culture Bourse, vos questions sur vos investissements trouvent ici leurs réponses. Julie Cohen-Herton et ses experts. Bonjour Julie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Parce que oui, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écrire. Oui, vous avez des questions pour structurer vos portefeuilles d'investissement. Et vous le savez, désormais, vous avez 2 options. Vous nous écrivez à l'adresse bfmbourse@bfmbusiness.fr ou bien au QR code qui s'affiche si vous nous regardez à la télévision.
Et aujourd'hui, une question très pédagogique que nous envoyons à nos auditeurs. Une question sur des enjeux d'arbitrage en bourse.
Exactement, et c'est Claude qui nous a écrit. Il s'interroge sur les stratégies déployées par les experts. Il veut savoir si un stratège, s'il est possible qu'un stratège sous-pondère un titre tout en remontant son objectif de cours. On va demander à Thibaut François pour Fastea Capital. Bonjour Thibaut, merci d'être avec nous.
Bonjour Julie.
Alors Thibaut, déjà, est-ce que d'un point de vue tactique, de façon générale, est-ce que cette stratégie, vous l'avez observée, est-ce qu'elle existe? Et si oui, est-ce qu'une sous-pondération, eh bien, ça va forcément à l'encontre d'un objectif de cours qui serait rehaussé?
Alors, effectivement, c'est une stratégie qui existe. Alors, sous-pondérer un titre, ça veut dire déjà, c'est une position tactique par rapport à un indice de référence. C'est-à-dire que, si je prends un exemple, Airbus, qui fait à peu près 5%, de l'indice CAC 40 en pondération, si un analyste sous-pondère le titre, ça veut dire que il faut en avoir un petit peu moins que 5% par rapport à l'indice. Donc si j'ai un petit peu moins de 5%, je sous-pondère le titre Airbus dans l'indice CAC 40 en espérant que l'indice CAC 40 aille plus vite avec d'autres valeurs et un petit peu moins vite avec la stratégie Airbus. Et donc c'est tout à fait possible d'avoir une sous-pondération d'un titre et de relever l'objectif de cours, parce que l'objectif de cours, on peut être sur un trend haussier sur Airbus, par exemple, c'est le cas depuis quelques mois, quelques années sur Airbus. Donc le titre monte régulièrement, on augmente l'objectif de cours et derrière, on est toujours à sous-pondérer sur le titre.
Alors ça, c'est pour donc ça existe, mais pour les investisseurs, est-ce que cet arbitrage, vous pensez que c'est un bon signal ou justement ça implique de jouer la prudence?
Alors c'est un bon signal pour le titre parce qu'en fait relever un objectif de cours, ça veut dire la plupart du temps, ça veut dire qu'il y a eu des bonnes nouvelles sur l'entreprise ou que le momentum et le titre sont en hausse. Donc plus le titre monte montre, plus l'objectif de cours va être relevé par l'analyse financière, avec en fonction des flux, en fonction des nouvelles, en fonction de la microéconomie ou de la macroéconomie. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle qu'il y ait un que l'on remonte l'objectif de cours sur la société. Et le fait que ça soit sous-pondéré ne veut pas dire que le titre va baisser ou monter. Ça veut juste dire que on pondère moins par rapport à un indice de référence.
Eh ben Thibault, justement, dans quelques minutes, on aura envie de vous demander sur Kering si vous sous-pondérez Kering. D'accord ? Vous restez en ligne avec nous.
Avec grand plaisir.
On va vous poser la question. Oui. On va vous demander un objectif de cours. Il va falloir vous mouiller, effectivement. Thibault François, qui va nous accompagner en fil rouge à nouveau dans quelques minutes. Mais auparavant, Culture Bourse, Julie, se poursuit parce que, bien sûr, on répond aux questions de nos auditeurs et téléspectateurs, mais on vous propose aussi de la haute pédagogie financière.
Effectivement. Et chaque jour, on reçoit un expert, un pédagogue pour nous expliquer un adage. Et alors, aujourd'hui, c'est plutôt pour, effectivement, répondre à un adage boursier. Il y a celui qui dit qu'il faut vendre au son du vieux et acheter au son du canon. Autrement dit, alors on achète quand tout le monde fuit le marché et on vend quand tout le monde veut acheter. Est-ce que c'est ça l'investissement contrariant ? Eh bien, on va voir ça avec vous, Antoine Fraisse-Soulier pour eToro. Bonjour, merci d'être avec nous.
Bonjour.
Alors déjà, tu sais, peut-être pour commencer, quand on parle d'investissement contrariant, on parle de quoi ?
Oui, alors l'investissement contrariant, c'est une stratégie d'investissement qui consiste effectivement à acheter ou vendre à contre-tendance, contre la tendance du marché ou contre le sentiment général de marché. C'est-à-dire qu'effectivement, un investisseur contrariant va acheter un actif lorsqu'il est en tendance haussière et lorsqu'il pense que lorsqu'il est en tendance haussière et à contrario il va acheter lorsque tout baisse il va estimer que finalement c'est peut-être un bon point d'entrée et voilà, donc c'est contre le sentiment de marché. On peut l'opposer à la stratégie momentum où c'est vraiment une stratégie qui va dans la tendance du marché. Là c'est contre la tendance.
Alors ça c'est pour la définition, mais est-ce que vous avez des exemples à nous donner ?
Oui, bien sûr. Alors il y a les exemples de la bulle internet par exemple en 2000 ou en 2008 la crise financière. C'est-à-dire que là on était dans des bulles. Donc ça aussi l'investisseur contrariant va aussi voir si on est estimé si on est dans une bulle, s'il y a une déconnexion trop importante entre la réalité, on va dire, financière d'un titre et sa réalité boursière. Parfois, on voit qu'effectivement, il y a des titres qui sont très fortement valorisés ou d'autres qui sont très sous-valorisés. Donc, on a pas mal d'exemples. Le dernier exemple en date, c'était en 2021, hein, lorsqu'on était en top de marché, notamment aux États-Unis. Eh bien, c'était là où justement, on a commencé à avoir cette baisse des marchés où, justement, les contrariens qui ont commencé à shorter le marché à ce moment-là ont pu tirer leur épingle du jeu.
Donc là, on a la définition, on a les exemples, mais est-ce que ça marche ?
Alors, est-ce que ça marche ? Je dirais que ça marche pas tout le temps, puisque la problématique de l'investissement contrarien, c'est le timing, savoir quand est-ce que finalement ça va se retourner. Et ça, c'est le plus dur à savoir, parce qu'on ne sait jamais vraiment quand est-ce qu'on est au top de marché ou quand est-ce qu'on est au plus bas. Donc, on va dire que le timing, c'est vraiment le plus compliqué. La majeure partie du temps, on peut estimer que ça ne marche pas, hein, puisque c'est vraiment quand même compliqué. Mais on va dire même pour les particuliers, c'est pas une stratégie à privilégier, hein, puisque on sait que c'est plutôt ce qui est en tendance qui fonctionne. En revanche, ça peut permettre des gains très importants, parce que quand ça fonctionne, en général, on est récompensé de manière importante.
Eh bien, merci beaucoup Antoine Fraisse-Soulier pour eToro. On vous retrouve très prochainement pour un nouveau Culture Bourse.
Ah, Julie, vous avez été rattrapée par la patrouille. Vous l'entendez ?
Ah oui, j'ai entendu. Ça fait gronder.
C'est Culture Bourse chaque jour. Merci beaucoup Antoine. Merci. Passez nous voir également. Et la tendance toujours un peu timide à Paris. On gagne, allez, tranquillement 0,2%. Mais enfin, quand même, on a un segment des semi-conducteurs qui cartonne. On vous explique tout dans un instant. Puis Tesla aussi, qui semble réenchanter les investisseurs, alors qu'au contraire, Kering reste désenchanté. Kering, lanterne rouge du CAC 40. Tesla de son côté à Wall Street gagne 10% après sa publication. On y revient juste après la pause. A tout de suite.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.